Changeons complètement de paysage culturel, si je puis dire, avec l'exposé de Luca Gabbiani, donc, comme il va nous expliquer, qui est basé sur ce qu'il appelle une biographie professionnelle, c'est-à-dire la biographie d'un Manchou de la fin des Qing, qui met tout l'accent sur sa carrière et ses fonctions.
C'est ça. Merci. Alors d'abord, je voudrais évidemment remercier... Monsieur Pierre-Étienne Ville et le Collège de France pour cette invitation. Je suis évidemment très content d'être ici pour participer à ce séminaire. Je vais vous parler aujourd'hui d'un Manchou qui évidemment a été fonctionnaire et qui s'appelait Sheng Yin et qui a vécu de 1762 à 1834.
Juste une chose, si vous pouviez écrire son nom, parce qu'il me semble que vous n'avez nulle part mis les caractères dans toutes les correspondances
D'accord.
que nous avons eues.
Voilà, et donc 1762 à 1834, en gros, on peut dire qu'il a vécu l'apogée, les années, les décennies d'apogée de la dynastie des Qing. Alors, pourquoi parler de lui ? Il y a plusieurs objectifs. D'abord, parce que je me pose la question, je suis tombé sur cette biographie complètement par hasard, mais je me suis demandé à la lecture si finalement, être fonctionnaire manchou, puisque c'était un manchou, avait quelque chose de différent d'être un fonctionnaire chinois à l'époque. Donc ça, c'est un premier aspect qui est intéressant, il me semble. Et le cas de Sheng Yin est intéressant dans cette perspective parce que, il a consacré, ou plutôt sa carrière, une bonne partie de sa carrière a été consacrée justement à ce qu'on pourrait appeler une dimension manchou du gouvernement des Qing. Alors qu'est-ce qu'il faut entendre par là ? C'est en fait l'administration de la population du groupe des conquérants, si vous voulez, parce qu'on sait que les Qing sont une dynastie de conquête, et donc ils sont arrivés en Chine, mais c'était un groupe de populations diverses. Les Manchous étaient évidemment la composante dominante, mais il y avait d'autres types, d'autres ethnies, d'autres groupes de populations, des Mongols, des Coréens, des Chinois ralliés, des populations d'Extrême-Orient russe, etc. Donc on sait qu'à ces populations-là, les Qing, le gouvernement, le régime des Qing, a réservé un mode d'administration et de gouvernement différent de celui qui a été appliqué aux populations qui se trouvaient dans la Chine propre. Et de la même manière, le gouvernement des Qing a appliqué un mode de gouvernement différent aux territoires qui se trouvaient en dehors de la Chine propre et qui ont été apportés par les Qing à l'Empire au moment où ils se sont installés à Pékin. Et donc ce qui est intéressant, c'est que le cas de Sheng Yin permet d'approcher cette dimension-là de l'administration impériale sous les Qing, une dimension qui, il me semble, on connaît encore relativement mal. Évidemment, il y a eu un renouveau, comme vous le savez, des études manchoues, en particulier aux États-Unis dans ces dernières décennies, qui ont apporté divers aspects intéressants sur ces questions. Mais je crois que la pratique quotidienne, si on veut, et surtout les problèmes auxquels étaient confrontés les administrateurs dans ces régions-là ou avec ces populations-là, c'est des choses qu'on peut encore approfondir. Donc le cas de Sheng Yin permet de lever une partie du voile. Alors évidemment ici il faut tout de suite soulever la question de la représentativité. Est-ce que Sheng Yin est un cas représentatif ? Non, Sheng Yin n'est pas un cas représentatif, je le dis d'office, parce qu'il a eu une carrière extrêmement brillante, relativement lente au démarrage si on veut, mais brillante. On peut dire qu'il a en fait servi trois empereurs, dont deux avec lesquels il a noué des liens extrêmement proches, les empereurs Jiating et Tao Guang. Et donc ça, c'est évidemment un aspect qu'il faut garder à l'esprit. Sheng Yin n'est pas représentatif d'une carrière manchoue ordinaire, ça c'est sûr. Mais malgré tout, je crois que c'est intéressant de parler de lui, parce qu'en fait, il existe sur lui une source, sa biographie, comme j'ai dit, pardon, le Sheng Qin Zhigong Nianpu, qui permet de suivre sa carrière année après année et qui ouvre des perspectives intéressantes sur cette dimension-là, donc la dimension manchoue du gouvernement. Alors je vais dire évidemment quelques mots sur cette source, puisque c'est sur elle que repose l'essentiel de mon propos, et même si je partage complètement l'opinion de M. Xie Yang, comme quoi travailler sur une seule source, c'est évidemment un peu dangereux. Mais disons, comme j'ai dit, je suis tombé par hasard sur cette source dans le cadre d'un autre type de travail. J'ai par la suite, j'ai eu le temps de fouiller dans d'autres grands domaines de sources, si vous voulez. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'autres choses que je n'ai pas encore eu le temps d'exploiter. Mais disons, je pense que dans le cadre de ce séminaire-ci, travailler sur cette biographie, c'est intéressant parce qu'elle-même est intéressante en tant que genre, je crois. Et c'est là un des points que j'aimerais discuter avec vous, si possible. Comme j'ai dit, je commence sur ce thème, donc j'espère que peut-être vous pourrez m'apporter quelques informations. Et aussi sur cette question de la source elle-même, est-ce que cette biographie mérite, une des questions qui se posent, c'est évidemment de savoir si elle mérite ou non d'être introduite dans le corpus de cette littérature didactique qui nous occupe depuis hier et qui va encore nous occuper jusqu'à ce soir.
Depuis hier, depuis 20 ans.
Oui, alors j'ai pas voulu parler de ça, mais ça ne me rajeunit pas, disons. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cette source? Alors, comme je l'ai dit, je l'ai découverte par hasard, je l'ai trouvée, on va dire, par hasard. Je travaille en ce moment, entre autres choses, sur la question de la propriété immobilière en milieu urbain sous les Qing. Qu'est-ce que ça voulait dire d'avoir une propriété en ville sous les Qing? Et il s'avère que, je connais un peu le contexte pékinois, et donc je travaille en particulier sur la ville de Pékin. Et il s'avère que Zhang Yin a occupé un poste pendant sa longue carrière. Il a occupé un poste à la tête d'un bureau fiscal à Pékin, un bureau fiscal des bannières, dont l'une des tâches principales était la taxation des contrats immobiliers. Et donc je suis tombé sur lui par ce biais-là. Il y a toute une série de documentations autour de ces questions-là, notamment une documentation très intéressante sur les abus, les questions d'abus, de faux contrats, d'usage de faux, etc. Et de fil en aiguille, je suis remonté à lui et de lui à sa biographie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de celle-ci? D'abord, qu'elle n'est pas datée. Première chose, elle n'est pas datée, mais à la lecture, on peut clairement penser qu'elle remonte aux années qui suivent directement la mort de Zhang Yin. Et donc, en gros, qu'elle a été écrite, disons, entre 1835-36 et 37. C'est probablement, c'est 36-37, je dirais, ce sont les années les plus probables. On sait qu'il y a une gravure qui en a été faite, donc elle a été publiée, mais en revanche, on n'a absolument aucune indication de la date, évidemment, mais ça doit a priori être juste après la fin de la rédaction, et aucune indication de l'éditeur, pas d'indication de l'éditeur. Donc, il se peut, c'est une hypothèse là que je pose, il se peut que ce soit une édition familiale. Donc, de ce point de vue-là, et comme je reprends ici un des arguments, un des points qu'a souligné Pierre-Étienne Ville hier, je ne peux pas vous dire, et je ne peux pas dire si elle a beaucoup circulé. C'est évidemment un problème qui est très important pour savoir, pour juger en quelque sorte de la valeur exemplaire ou didactique, pédagogique d'une œuvre. Hein. Pourquoi est-ce qu'on peut imaginer que c'est une édition familiale? Imaginez que c'est une édition familiale, et bien parce que le texte lui-même a été rédigé par les fils de Zhang Yin, les deux fils de Zhang Yin, et qui nous disent avoir disposé pour cela des archives que leur a laissé leur père, des papiers en quelque sorte que leur a laissé leur père. Alors elle est construite en deux chapitres, en deux yuan, et sur le modèle évidemment d'une yen pu, c'est-à-dire que le texte décline année après année la vie de Zhang Yin. Alors je crois, et c'est là un des points que je voudrais mettre, je crois que cette biographie peut être rattachée au corpus de littérature didactique à l'attention des fonctionnaires dont Pierre-Étienne Ville a mis en place, a compilé cette très épaisse bibliographie. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? D'abord parce qu'elle s'y rattache, il me semble, par le genre, par un des genres qui existe dans cette bibliographie. Quel est ce genre? Eh bien, c'est celle de la biographie professionnelle. Ça se rapproche de l'autobiographie, mais en l'occurrence, il s'agit d'une biographie professionnelle. En effet, à la lecture, on se rend très vite compte qu'en dehors des événements familiaux incontournables, comme les naissances, les mariages, les décès, etc., et de quelques épisodes personnels importants, on aura l'occasion d'y revenir, la maladie, je pense en particulier à la maladie, l'essentiel du propos, l'essentiel du texte est consacré aux activités professionnelles de Shang Yi. Et puis l'autre aspect, il me semble, qui est important et qui relie cette œuvre au corpus didactique qui nous intéresse, c'est l'objectif du texte. Au-delà de présenter la vie de Shang Yin, qui est quand même évidemment un aspect important, mais je tiens à souligner ici que le texte n'est absolument pas outrageusement hagiographique, au contraire, il est très, très neutre. Donc au-delà de présenter la vie de Shang Yin, l'objectif c'est de présenter un fonctionnaire modèle, un exemple à suivre. Et je dirais même qu'au-delà de la carrière, donc au-delà du personnage même, c'est sa psychologie et même peut-être son éthique qui est mise en avant pour émulation. Donc par là, je crois qu'effectivement le texte se relie aux œuvres, à certaines œuvres en tout cas, et en particulier aux autobiographies professionnelles que Pierre-Étienne Ville a regroupées dans la première partie, je crois, de la bibliographie. Alors, par rapport, il faut quand même préciser que par rapport à ces autobiographies professionnelles, le texte en question se démarque de ces autobiographies professionnelles, notamment par le style. La narration, dans le style Nianpu, est assez sèche. Il n'y a évidemment aucune dimension réminiscence personnelle, et pour cause. Donc, on se retrouve face à un catalogue, année par année, un catalogue des activités professionnelles de Shang Yi. Les postes qu'il a occupés, les missions auxquelles il a été dépêché, etc. Il y a évidemment, d'abord, tout n'est pas détaillé, parce que 44 années, il a passé 44 années dans la fonction publique, donc c'était impossible évidemment de tout détailler au jour le jour, mais on trouve des détails pour les événements, ou en tout cas, oui, les événements les plus importants, ou les plus représentatifs, semble-t-il, de sa carrière. Donc ce qu'on peut dire, c'est que le texte est moins vivant ou moins captivant qu'un récit qui serait plus personnel, mais pour l'historien, d'une certaine manière, il a l'avantage de rester très proche, clairement très proche de la documentation, des archives qui ont servi de base à sa rédaction, puisqu'on trouve, beaucoup d'extraits, sinon d'extraits in extenso, de mémoires qu'a écrit Shang Yin, beaucoup d'édits impériaux qui ont répondu à ses mémoires, etc., etc. Voilà, donc la question sur l'utilité de l'inclure ou non dans la biographie, reste ouverte à discussion, on pourra en discuter. Dans la suite de l'exposé, maintenant, j'aimerais en fait illustrer ce que je viens de dire par des exemples tirés du texte. Et je vais procéder en deux temps. D'abord, j'aimerais montrer comment Shang Yin a été formé, comment il s'est formé, quelles sont les bases de sa formation, et ensuite, évidemment, passer en revue quelques exemples, quelques éléments importants de sa carrière. Mais avant ça, et pour donner un peu d'épaisseur au personnage, je pense qu'il peut être intéressant de dresser rapidement une liste non exhaustive, je le précise, des postes qu'il a occupés. Hein, parce que je crois que ça va donner tout de suite une idée de qui était ce Shang Yin. Alors, il entre, comme je l'ai dit, dans la fonction publique, il a 28 ans. C'est 1790, sous Qianlong. Et il est affecté directement dans les rangs intermédiaires de la bureaucratie centrale, au ministère des Rites. Là, il va rester une dizaine d'années, un peu plus même. Puis il est détaché au Huidianguan, donc au bureau de compilation du Huidian, donc les statuts et précédents de la dynastie des Qing. Bureau qui ouvre en 1803 et lui, il est détaché directement en 1803. Et là, il reste 6 ans. De là, en 1807, en fait, il est muté entièrement. Donc, son poste au Libou est abandonné, il est complètement muté au Huidianguan. Ce n'est pas très important. 1809, censeur. Il est censeur, c'est un poste important parce que, évidemment, il ouvre des canaux de communication directs avec le souverain, ou en tout cas avec ses plus proches collaborateurs. Et effectivement, à partir de là, on sent, 1807-1809, on sent que la carrière commence à embrayer, à prendre de la vitesse. Donc il a déjà un certain âge, il atteint déjà pratiquement la cinquantaine. Hein. Donc ce n'est pas une carrière très rapide, a priori. À partir de là, après 1809, il entre à l'Académie Hanlin et au Jianshifu, en même temps, dans des postes intermédiaires. Alors le Jianshifu, c'était sous les Ming, l'office qui s'occupait de l'héritier désigné. Sous les Qing, comme il n'y a pas d'héritier désigné, a priori, on dit que le bureau a eu moins d'importance, mais en fait, à la fois au Hanlin et à la fois au Jianshifu, il a été mis en contact assez proche avec la famille impériale et le souverain lui-même. Donc déjà là, on voit qu'il y a des liens qui se nouent, hein, avec le pouvoir suprême. De là, à partir de là, il est dépêché dans diverses missions, notamment en Mongolie, auprès des Mongols Khalkha en 1813, où il représente l'empereur. Et ensuite, dans des tournées avec l'empereur, où il accompagne l'empereur, dans les tombes des prédécesseurs de Jiati. 1816, c'est une année importante parce qu'il est nommé vice-président du ministère des rites à Chengding, donc il rentre sur ses terres, il rentre dans sa ville d'origine. Et je vous rappelle que vice-président du ministère des rites à Chengding, c'est en fait le poste le plus élevé, puisque la présidence de ces ministères était à Pékin. Le président du Libou, les présidents de tous les ministères étaient aussi présidents des ministères de Chengding. Donc le poste le plus élevé était vice-président. Et là, il va rester 9 années, oui, jusqu'en 1825. Et donc, on voit déjà la dimension rituelle d'État qui est très importante dans sa carrière. Ça, c'est un premier point. Et après, à la fin des années 1820, il est nommé par Dao Guang, cette fois, donc, qui a succédé à son père en 1820-1821. Il est nommé à Zhehe comme commandant militaire de Zhehe, où il aura là à gérer toute une série de problèmes avec les populations mongoles, les tribus mongoles qui dépendent de la région de Zhehe. Et ensuite, donc, à la fin de sa carrière, parce qu'on arrive déjà pratiquement au bout de sa vie, il est rappelé à Pékin, et là, il finit ses dernières années comme dans les plus hauts rangs, dans les plus hautes sphères de l'administration centrale, et surtout, et c'est ça un point qui est assez important et qui me semble assez spécifique du cas des Qing, c'est qu'il est encore en quelque sorte un homme de confiance du souverain, un homme à tout faire, on va dire, c'est-à-dire qu'il est dépêché très régulièrement en mission, aussi bien en Chine propre qu'en dehors des passes, pour inspecter des régions, pour inspecter des troupes militaires, qu'elles soient des bannières ou chinoises, et aussi pour résoudre, ou en tout cas enquêter sur des affaires graves, judiciaires, notamment entre divers degrés de l'administration. Donc, pas seulement des graves faits criminels, si vous voulez, mais des questions de corruption, etc. Donc vraiment, là, si vous voulez, un conseiller ou en tout cas un homme très proche du souverain. Et ça, je crois que c'est un aspect assez intéressant de sa vie. Alors, je vais simplement finir cette brève présentation sur les liens qu'il a réussi à tisser avec les souverains. Lorsqu'il meurt, l'empereur Dao Guang promulgue un édit spécial qui montre les liens. Alors évidemment, à part l'affliction dont il fait état à la perte d'un grand homme, il explique qu'il ordonne que le cercueil, en fait, en 1834, Sheng Yin est envoyé par l'empereur dans une de ses grandes tournées de l'Empire d'inspection. Il est envoyé d'abord au Henan, puis au Shandong, puis on l'envoie au Guangxi, donc vous imaginez, qui traverse vraiment tout le pays. Et en arrivant au Guangxi, il tombe malade, il repart vers le nord, et à Yangshuo, au Guizhou, il décède. Donc vous me direz, il y a peut-être pire pour mourir comme endroit que Yangshuo, mais enfin bref, quand on meurt, on meurt, donc là n'est pas le problème. Donc si vous voulez, on voit, disons, la dimension de cette circulation qu'il avait, ces voyages extrêmement prolongés qu'il a dû faire jusqu'au dernier instant de sa vie. Et donc il montre la proximité avec le souverain. Et justement, dans cet édit, le souverain ordonne que le cercueil soit ramené à Pékin, ce qui n'a rien de forcément étonnant pour un Manchou en particulier, que le cercueil soit ramené à Pékin, mais qu'en route, dans chaque capitale provinciale, les plus hautes instances provinciales lui rendent les honneurs dus à son rang. Ce qui, bon, moi je n'ai pas une grande expérience, mais je suis rarement tombé sur ce genre d'ordre, si vous voulez, ou en tout cas d'indication. Et puis, plus frappant, pour quelqu'un qui connaît un peu la manière dont Pékin a été géré, administré, l'empereur ordonne aussi, ou en tout cas donne son accord pour que le cercueil puisse pénétrer dans la ville, alors qu'en général les cercueils ne pouvaient qu'en sortir. Donc que le cercueil puisse pénétrer dans la ville, qu'on puisse sur place procéder aux cérémonies funéraires nécessaires avant une inhumation en dehors de la ville. Voilà, donc on a là, si vous voulez, une idée de ce qui était ce Xiangyin et des liens qu'il a réussi à nouer avec les plus hautes sphères du pouvoir. Alors, sa formation, passons rapidement sur sa formation. Xiangyin donc est né à Shangjing le 4 août 1762. Shangjing qui est la capitale secondaire de l'empire des Qing, qui est située en Mandchourie et qui est donc une région qui est le berceau de la dynastie. On ne sait pas grand-chose sur sa famille paternelle, sinon que ce sont des Mandchous appartenant à la bannière jaune à bordure de la ville de Shangjing et qu'il relève du clan des Madia. On sait aussi que cette famille est installée à Shangjing depuis la conquête, c'est-à-dire qu'en fait un ancêtre de Shangjing était un soldat valeureux qui avait été décoré pour ses faits d'armes et qui, après le passage des passes, a été blessé relativement rapidement avant même l'arrivée des troupes à Pékin, et donc il a été renvoyé vers l'arrière et, pour qu'il se soigne à Shangjing, et la conquête ayant été faite, bon, bah, il était à Shangjing et à partir de là sa famille s'est installée à Shangjing. On en sait un petit peu plus sur le père de Shangjing. Lui, il était fonctionnaire intermédiaire du ministère des rites de Shangjing. Sans qu'on nous dise quoi que ce soit, enfin on ne nous parle pas du tout d'une carrière particulièrement brillante ou quoi que ce soit. De toute façon, ce qui est l'événement assez important qui se passe, c'est que le père de Shangjin meurt très rapidement puisqu'il meurt en 17, enfin très rapidement pour Shangjin puisqu'il meurt en 1764, alors que Shangjin a certes 3 souhaits, mais en fait dans notre manière de compter il a à peine 1 an et demi, donc il est encore très jeune. Et l'événement est important parce qu'à la suite de ce deuil, la mère de Shangjin décide de quitter la famille paternelle et de repartir dans sa famille d'origine, dans sa famille maternelle, et elle s'installe chez son grand frère, l'oncle de Shangjin. Et c'est là que celui-ci va donc, c'est là que celui-ci va passer toute sa jeunesse. Alors c'est un tournant important pour plusieurs raisons, mais revenons d'abord sur les raisons du retour de la mère chez son frère. Pourquoi est-elle repartie chez son frère? Alors, évidemment, ces raisons ne sont pas explicitées dans le texte, elles ne sont pas clairement citées, mentionnées dans le texte, mais on trouve quelques indices. Premièrement, on sait que, enfin, en tout cas, l'impression est que la famille paternelle, clairement, semble avoir été dans une situation économique très difficile au moment du décès du père, et que cette situation soit due au père, en partie au père lui-même. Déjà là, il y a un problème, et de là seraient venues les pressions de la famille paternelle sur la mère pour qu'elle se remarie, ce qu'elle aurait refusé de faire, souhaitant rester veuve. Donc là déjà, on a une situation qui est assez intéressante et qui nous dit quelques petites choses. Alors, avant d'essayer d'aller plus avant, qu'est-ce qu'on peut dire en revanche de la famille maternelle d'après ? Toujours sur la base de la biographie, hein. Ce sont eux des membres des bannières aussi, installés à Shangjing depuis fort longtemps, mais ce sont des Chinois des bannières, et qui appartiennent à la bannière bleue, de patronyme Chen, le Chen avec l'oreille à gauche. Alors, la mère est une femme éduquée, on sait qu'elle sait lire, qu'elle sait écrire, on nous dit que son éducation a été basée sur les instructions familiales, les diasun, divers types de diasun, et sur la lecture. C'est là un aspect assez intéressant sur la lecture des biographies des femmes vertueuses, Lien Yuzhuan. Elle s'est mariée à 26 souhaits, ce qui est, à mon sens, quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est relativement tard. Maintenant, peut-être que je me trompe, vous pourrez me dire, 26 souhaits, ça peut être 24 ans, 25 ans, hein, donc, mais disons, c'est relativement tard, on va dire, voilà. Donc clairement, quand on lit ça, on se dit, il y a une très nette influence chinoise, là, de la culture chinoise, et une famille, évidemment, a priori, de niveau socioculturel plutôt élevé, hein, pour que les femmes soient ainsi éduquées, qu'on les laisse ainsi acquérir un certain niveau d'éducation. Je crois que ça colle plutôt à un profil de famille au niveau socioculturel élevé. Alors maintenant, le frère de la mère, Chen Liu Wu, lui, ce qu'on sait, c'est qu'il est licencié, c'est un Zhuyuan, et qu'il a occupé divers postes au sein de l'administration territoriale en Chine propre, dont le dernier est celui de préfet de Dengzhou au Shandong. Donc une carrière déjà relativement intéressante, relativement belle, hein, parce qu'on ne devient pas préfet du premier coup. Ce Chen Liu Wu a deux fils, donc les cousins de Sheng Yin, Chen Dawen et Chen Daiyo. Et tous deux sont licenciés. Tous deux ont le titre de Zhuren. Le premier, on sait que le premier a aussi été magistrat au Guangxi, puis au Sichuan, puis il est mort. Et le deuxième, est mort avant d'avoir la possibilité d'obtenir un poste. Donc là, clairement, on a une idée très claire de ce background de la famille, si vous voulez, l'arrière-plan familial, une famille clairement éduquée à la chinoise, dans la tradition lettrée, grande, pas sûr, mais en tout cas dans la tradition lettrée, et dont l'objectif, pour les hommes en tout cas, était évidemment les examens, le passage des examens mandarinaux et le service dans la fonction publique. Et c'est donc dans ce milieu-là, dans cette atmosphère-là, que Sheng Yin va grandir et il va être coaché, il va être éduqué, en fait, son éducation va être prise en main par ses deux cousins. Or, ce qui est intéressant, c'est que ces deux hommes, ces deux cousins, n'étaient pas n'importe qui, en fait. En tout cas, dans le microcosme lettré de Sheng Yin, ils n'étaient pas n'importe qui. Le deuxième, je prends dans l'ordre inverse, si vous voulez, de la chronologie des naissances, parce que le deuxième cousin est celui qui s'est occupé le plus de Sheng Yin au départ. Donc le deuxième cousin, Chen Daiyo, on nous le présente comme un spécialiste de l'exégèse des classiques. C'est quelqu'un qui sait expliquer les caractères des classiques, le sens des caractères des classiques. Et c'est lui donc qui introduit Sheng Yin à la prose ancienne, le Gu Wen, et à la prose moderne, le Shi Wen, qui est celle des examens. Et c'est lui aussi qui découvre les talents, dit-il, de Sheng Yin à ce propos. Alors, ce Chen Daiyo meurt en 1777, lorsque Sheng Yin a 15 ans, et il laisse derrière lui un manuscrit, justement, sur les classiques, qui a été publié à titre posthume. Alors, je ne l'ai pas encore localisé, si vous voulez, mais en tout cas, on sait qu'il a publié un de ses ouvrages, en tout cas, son manuscrit sur les classiques a été publié à titre posthume. Et puis, le premier oncle, qui reprend le flambeau, il a toujours été à proximité, mais il reprend vraiment le flambeau à la mort de son frère, le flambeau donc de l'éducation de Sheng Yin, lui, ce Chen Dawen, excelle dans la prose et dans la poésie. Donc, évidemment, pour Sheng Yin, clairement, il pouvait plus mal tomber l'environnement familial. Et ce Chen Dawen a divers ouvrages, il y a une liste d'ouvrages qui ont été publiés de son vivant, de recueils de poésie et de textes en prose. Et c'est lui, évidemment, qui forme Sheng Yin à ces techniques-là de l'écriture. Et on verra que la poésie, dans la carrière de Sheng Yin, joue un rôle assez important, dans un des tournants importants de la carrière de Sheng Yin. Voilà. Donc, en gros, ça, c'est l'arrière-plan familial. Donc, depuis très jeune, il est éduqué à la culture chinoise classique, à Chengding, quand même, qui est la capitale mandchoue par excellence, si vous voulez, en dehors de la ville intérieure pékinoise, si vous voulez, Chengding, c'est quand même le symbole des Mandchous, en Mandchourie. Il est éduqué comme ça, il va dans diverses écoles, il suit ses oncles, d'ailleurs son second oncle qui le suit au début est professeur dans diverses écoles et académies à Chengding. Alors qu'est-ce qu'on peut dire, 1700, je saute un peu dans le temps, 1780 c'est une première étape, Sheng Yin a 18 ans, il va à Pékin pour la première fois, il a passé déjà les examens locaux, le Tongshi, etc. Et il va à Pékin pour se présenter à l'examen préfectoral de Shuntian, qui est un examen provincial quand même, l'équivalent d'un examen provincial, il échoue. Il a 18 ans, mais il y va pour la première fois déjà à 18 ans, ce qui est relativement jeune, et il échoue évidemment. Par contre, son cousin, qui l'accompagne à Pékin, lui obtient un poste, c'est là qu'il passe le tirage au sort, la fameuse procédure des tirages au sort des postes, et il obtient un poste au Guangxi. Donc le cousin s'en va, part avec toute sa famille au Guangxi, et donc Sheng Yin, en rentrant dans sa ville, s'inscrit dans une académie où il va vivre en gros les dix années suivantes. Sous la houlette d'un certain Shen Lin, dont on nous dit que c'est un maître dans l'art de la prose des examens, il va s'affirmer au cours des 10 années suivantes comme un jeune lettré prometteur. Alors Chen Lin, j'ai pas, là encore, je n'ai pas eu le temps de faire une recherche biographique particulièrement poussée, mais dans la biographie qui nous intéresse ici, on nous dit qu'il est originaire du Jiangsu, qu'il a été fonctionnaire au Guangdong et qu'ensuite il a été engagé par cette académie. Donc déjà, on voit la circulation des hommes hein, dans cet empire.
L'académie à Chengding.
À Chengding, oui. Et on nous le compare à un autre modèle, un autre maître de la prose moderne de l'époque, dont je n'ai pas noté les caractères. Il faudra que je fasse tout ce travail-là, si vous voulez, de recherche biographique pour bien cerner un peu les personnages en place. Mais disons que Chengding est là, coaché en quelque sorte, sous la houlette de quelqu'un qui est vraiment, semble-t-il, fort efficace. Et de fait, dans les 10 années suivantes, on le voit de mieux en mieux classé aux examens locaux. Divers examens locaux, le Keshu, le Tongshu, enfin pas le Tongshu, il y a le Keshu, le Suishu, etc. Donc régulièrement, il monte dans la classification de ces examens. Et il se présente aussi à diverses reprises, toujours à l'examen préfectoral de Shuntian, auquel il échoue à 3 reprises au cours de ces années. Et puis le tournant arrive en 1788-1790. En 1788, il est classé premier à l'examen local, le Keshu, ce qui permet à l'examinateur de le présenter comme étudiant présenté à l'empereur. C'est un bagong. Il devient bagong et à ce titre, il a le droit de se présenter au Chaokao, qui est un examen spécial pour les bagongs de l'Empire, à Pékin l'année suivante. Il s'y rend et il passe le Chaokao et il est classé 4e. Donc c'est déjà c'est évidemment un grand succès. Et à l'époque, depuis peu, à l'époque, comme pour le doctorat, les examens nationaux des bagongs impliquent 2 sessions, une qui est le Chaokao et une autre session au palais en présence de l'empereur, comme pour le Dianshi à la suite du Huishi pour les doctorats. Et donc Sheng Yin se retrouve au palais. Je présente cette anecdote parce qu'elle est assez intéressante. Il se retrouve au palais et il passe l'examen, l'empereur est là, et au moment où les sujets de dissertation sont distribués, l'empereur demande que les copies des poésies rédigées par les candidats des bannières lui soient présentées. C'est tout ce qu'on dit dans la biographie. Et ensuite, on nous explique que les résultats sortent et Sheng Yin est classé premier. Donc évidemment, en tant que 4e au Chaokao, il est remarqué. Forcément, c'est probablement, fort probablement, le premier des bannières. On ne nous le dit pas, mais ça paraît relativement logique. L'empereur a donc envie de savoir qui il est, et comme il a été bien formé à la poésie, boum, 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 une chose faisant l'autre, on peut imaginer, je ne veux pas mettre en doute ses capacités, hein, mais on peut imaginer qu'il y a là quand même, clairement, derrière cette éducation chinoise lettrée extrêmement riche, tout à coup, le merveilleux classement aux examens doit aussi peut-être en partie à son statut de Manchu. Hein? Donc voilà. Donc à partir de là, comme il est classé premier, il est appelé en audience et on lui donne un poste, petit fonctionnaire de la capitale, comme on dit, de rang 7, donc Sir Jingguan, et il est affecté au ministère des Rites. Donc il a 28 ans, 1790, 28 ans, et devant lui s'ouvrent 44 années de carrière au sein de la fonction publique. Alors, qu'est-ce qu'on prend ? Un rapide bilan. C'est assez simple. D'abord, il a suivi une éducation chinoise, tout ce qu'il y a de plus classique, et aucune mention d'une éducation technique, aucune mention de la lecture des manuels et autres œuvres dont nous faisons la compilation. Mais il a un oncle fonctionnaire, il a un cousin fonctionnaire, un cousin fonctionnaire. On peut imaginer, évidemment, c'est une hypothèse, mais qu'il a été en contact avec ce genre de littérature, on peut l'imaginer. Ce qui est plus important, il me semble, c'est qu'il a absolument aucune dimension manchou dans son éducation, absolument rien. Il ne sait pas le manchou. On l'apprend après dans la biographie. Il ne sait pas le manchou, et donc il est à Chengding, dans une atmosphère qui se voudrait manchou, et qui, en fait, est très largement chinoise. Alors c'est peut-être un microcosme, mais en tout cas, ce qu'on nous montre de cette ville et de cette situation-là à la fin du XVIIIe siècle, c'est assez étonnant, d'une certaine manière. Donc il ne connaît rien, pas de formation en manchou, pas de formation à une quelconque technique de gouvernement manchou, absolument rien de tout ça. pas de formation à la langue non plus, mais en revanche, il me semble qu'on peut estimer que son statut est en partie à la base du classement aussi brillant qu'il a eu aux examens. Alors, ce qu'il faut noter ici, c'est qu'il ne le met pas du tout en avant, ce statut-là, et il ne met même pas trop en avant sa réussite à cet examen particulier, au contraire, puisqu'il va chercher par la suite, dans à peu près les 10 années suivantes, à continuer à passer les examens par la voie, le canal normal, le canal ordinaire, celui auquel se présentent tous les candidats ordinaires de l'Empire, c'est-à-dire l'examen préfectoral de Shuntian et, si possible, le huishi, c'est-à-dire l'examen doctoral, auquel il va échouer. Il va passer en 1800 l'examen préfectoral de Shuntian. L'année suivante, il échoue au huishi et après, c'est fini parce qu'on ne nous parle plus de tentatives aux examens. Alors, la carrière, rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire de sa carrière ? Bon, évidemment, c'est impossible de résumer ici 44 années de carrière. Je vais juste tirer quelques éléments qui permettent de voir qu'est-ce qu'il a influencé, qu'est-ce qui a été quels ont été les grands moments, en quelque sorte, ou les grands domaines dans lesquels il a pratiqué. Alors, il faut souligner, en premier lieu, son lien avec le rituel d'État, avec le libo. C'est quelque chose d'extrêmement important, et en particulier avec les rites d'État et les rites impériaux. Comme je l'ai dit, il débute la carrière au libo à Pékin, et il va y rester 13 ans. De 1790 à 1803. Et on nous dit qu'il quitte le ministère à l'époque avec une connaissance très approfondie dans ce domaine. Et on verra le moment venu que ces connaissances probablement justifieront aussi sa nomination à Chongqing à la tête du ministère des rites locales, où, je vous le rappelle, l'essentiel du travail consistait à gérer les rites impériaux de la famille régnante. Ce qui m'a frappé d'une certaine manière, parce que je ne m'étais jamais vraiment intéressé en fait à ce domaine de l'administration, ce qui m'a frappé, c'est que c'était quelque chose, en tout cas d'après, vous me direz, il a beaucoup travaillé dedans, donc c'est normal que ça ressorte beaucoup, mais il semble que c'était quelque chose, le ministère des rites, qui était très important et qui avait vraiment, malgré le côté qu'on peut penser un peu rébarbatif, si vous voulez, quand il s'agit de lire ce genre de sources, il y avait en fait une dimension très importante, en particulier évidemment pour la famille régnante et pour le souverain, et je dirais même en particulier pour Jiating, je ne peux pas parler pour les autres, mais pour Jiating, je crois que Jiating portait une attention extrêmement précise à ce domaine, aussi bien à Pékin, et peut-être plus encore justement à Chongqing, c'est-à-dire avec ses ancêtres. Donc, là, je pense que Cheng Yin a mis les pieds, en quelque sorte, au départ, dans un domaine qui était important pour le souverain. Et puis, pendant ces mêmes années, donc la décennie 1790, si vous voulez, début 1800, il y a deux événements qui sont importants à mentionner. Le premier, c'est 1793, Cheng Yin tombe malade à Pékin et il est sur le point de mourir. On nous dit qu'il est sur le point de mourir et qu'il s'en remet un peu miraculeusement en cessant de prendre des médicaments et en passant à d'autres. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons, il a là une expérience extrêmement, j'imagine, extrêmement dure. Et c'est un point important dans la biographie, parce qu'à partir de là, on nous explique qu'en se remettant, il prend de la distance par rapport notamment aux carrières, aux honneurs, à la nécessité d'avancer rapidement, au microcosme lettré où les apparences semblent avoir été extrêmement importantes. Il prend de la distance par rapport à ça. On nous dit qu'il a compris en quelque sorte le sens de la vie, l'importance de la vie, et qu'il s'investit beaucoup plus dans son travail d'une manière diligente, assidue, zélée, etc., etc. Donc si vous voulez, il y a là, on commence à voir en quelque sorte les linéaments d'un discours sur une éthique, sur une morale qui sous-tendent en fait tout le reste du texte. Donc ça, c'est un aspect important. Et l'autre aspect important, c'est le deuxième événement important, c'est la mort de sa mère en 1790. Et là, alors c'est plutôt la dimension spirituelle du caractère ou de la psychologie de Cheng Yin. Alors je ne peux pas rentrer dans les détails, mais disons qu'il s'occupe, ce qu'il occupe le plus, évidemment il est extrêmement affligé, il était très proche de sa mère, hein, évidemment orphelin de père, il était très proche de sa mère. Il s'occupe de la tombe, en particulier des questions de géomancie. pour sa mère. Il s'avère que sa mère ne doit pas être enterrée à côté de son père. Il s'avère que la tombe de son père est mal orientée de manière pour les principes de la géomancie. Donc il fait faire tous des travaux autour de la tombe de son père pour réorienter cette tombe. Enfin, il y a toute une série d'éléments-là qui reviennent à ces questions spirituelles dont on parlait, qui semblent très importantes, en tout cas dans la vie de Zhang Yin. Et c'est intéressant parce que dans la biographie, donc il parvient au bout de ses efforts, évidemment, et dans la biographie, on nous dit, ah ben voilà, le signe de l'efficacité, parce qu'il se demande même si la destinée de sa famille paternelle n'a pas été due justement à la mauvaise orientation de la tombe du père, enfin si vous voulez, il y a vraiment une croyance dans ces choses-là très importante. Et dans la biographie, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh ben voilà, une fois que tout ça a été rétabli, que l'ordre, que l'harmonie règne à nouveau, boum, il réussit aux examens. 1800. En 1800, tac, il passe l'examen préfectoral et tout va bien. Donc c'est assez intéressant, si vous voulez, dans le style du discours, en quelque sorte, qui est mis en avant. Voilà, deuxième aspect important, je crois, de la carrière, et je vais essayer de me dépêcher parce que sinon on va déborder. Deuxième aspect important de la carrière, c'est évidemment l'orientation vers la sphère mandchoue. Comment est-ce que ça s'est fait? Puisqu'il n'a aucune maîtrise du mandchou, il n'a aucune éducation mandchou, enfin il apparaît beaucoup plus, malgré son nom qui est mandchou, il apparaît beaucoup plus comme un chinois, un lettré chinois à l'époque. Alors c'est justement en 1803 que tout se fait, quand il est détaché au Huidianguan. Une règle voulait en tout cas que tout membre des bannières détaché au Huidianguan ait à prendre en charge la traduction du texte chinois en mandchou. Et évidemment là, il ne semble pas que ça ait été très suivi, mais lui décide de profiter de l'occasion, en quelque sorte, et il apprend le mandchou. D'ailleurs, dans la biographie, c'est intéressant, on nous dit que lorsqu'il se lance dans cette entreprise, il dit s'en vouloir de ne pas l'avoir fait avant, enfin, etc., etc. Donc, je ne sais pas si c'est une stratégie appliquée consciemment, mais en tout cas, il apprend le mandchou. En 4 années, il maîtrise la langue, il maîtrise la langue, et à partir de 1807, donc, il est en charge de la traduction de l'essentiel du Huidian en mandchou. Et on nous dit, évidemment, qu'il est extrêmement efficace, extrêmement brillant, etc. Et donc, à partir de là, évidemment, sa carrière prend un pli très nettement mandchou, puisque, évidemment, il est repéré pour ses qualités. En 1809, lorsqu'il y a une évaluation de l'ensemble du personnel du Huidianguan, 222 fonctionnaires, je crois, il est classé premier. Et, comme par hasard, en 1809 aussi, quelques mois après, il est nommé censeur. Donc à partir de là, si vous voulez, les choses s'enchaînent. En tant que censeur, il se fait remarquer par le souverain par une série de mémoires envoyées à propos des affaires des bannières, corruption, problèmes d'éducation, ou d'ailleurs il suggère que les enfants des bannières soient à l'école, qu'on les éduque sur la base du Xiaosui. Etc. Enfin, toute une série d'éléments autour des bannières, et tous ces mémoires sont suivis d'un édit long. Donc tous les mémoires ont reçu un édit de l'empereur long qui abonde évidemment dans le sens de Zhang Yin. Donc là il est clairement repéré, et à partir de là, bon, ça démarre, puisque directement après il entre au Jianshifu, puis au Hanlin Yuan, et ensuite il part faire ses missions en Mongolie, etc. Donc là, on voit que tout à coup, il a orienté, si vous voulez, de manière consciente ou non, sa carrière dans une direction qui lui a permis, il a occupé un terrain, si vous voulez, qui lui a permis de décoller. Alors évidemment, il a des qualités, hein, je veux dire, c'est certainement pas un... Mais disons qu'il y a là un aspect intéressant. Donc, rapidement, sur les années à Shangding, je saute un peu, sur les années à Shangding, donc de 1816 à 1825, c'est important parce qu'en fait, ça montre à quel point il a su tisser des liens avec le souverain à ce moment-là. En 1818, Jia Qing va à Shangding pour une tournée d'un mois, un peu plus, des tombes impériales, et en gros, c'est Shangding qui est en charge de tout. Zhang Yin est en charge de tout. Il est appelé en audience privée à 14 reprises. Il est envoyé tout le temps à l'avance dans les lieux que va visiter l'empereur. Enfin, ça devient vraiment l'homme de confiance sur place. Et donc là, on a c'est évidemment ses capacités au niveau des questions de rituel, et aussi cette dimension mandchou, il me semble, qui sont mises en avant ici. Après la mort de Jia Qing, donc, Il entretient évidemment de bons rapports avec Dao Guang, mais ce qui est intéressant et ce que nous montre la biographie, c'est qu'il est capable de faire preuve de talent de fonctionnaire vraiment à Shangdi, au ministère des Rites à Shangding même, où il résout quelques problèmes, il s'attire les faveurs en fait de son personnel subalterne. D'abord par ses attitudes extrêmement, et on en parlait à propos de ce que disait Xie Yang, c'est une attitude au contraire très, très proche de ses subalternes, très, très, je ne dirais pas amicale, mais en tout cas à l'écoute, pas du tout dans la rupture, si vous voulez, ou dans les ordres, etc. Et puis, il sait aussi résoudre divers problèmes qui étaient liés à la question de l'approvisionnement du ministère en objets et en produits rituels. Il y avait tout un système, j'ai pas pu, la biographie le détaille un peu, il y avait tout un système de corvées, en fait, une sorte de pseudo-corvée, qui pesait sur une partie de la population de la région de Xiangding, qui devait produire et approvisionner le ministère avec ces produits-là. Et évidemment, le système était ancien, n'avait pas été réformé, il était lourd, sujet à abus, à corruption, et donc lui parvient, malgré des tensions avec notamment l'administration de la maison impériale, parvient à résoudre ce problème. Et donc il fait la preuve, on nous montre, enfin, c'est deux événements qui montrent qu'il est un fonctionnaire efficace, si vous voulez. Donc, hein. Et puis donc, comme j'ai dit, après la mort, ce séjour à Shangding, lorsqu'il quitte, et ça c'est un signe qui revient souvent d'ailleurs dans certains manuels ou dans certains types de d'ouvrages didactiques pour les fonctionnaires, lorsqu'il quitte en 1825 Shangding, on nous dit qu'une foule immense l'accompagne sur plusieurs kilomètres. Tous les fonctionnaires du Libou sont là à faire des coteaux, à décorer la route. Tous les Zhuangyi, donc toutes ces personnes qui étaient responsables de ces corvées, sont là aussi, le remercient, ce qui est évidemment est une première dans les annales de la ville, etc. etc. Bon, bref, voilà, c'est un peu les poncifs, hein, en quelque sorte. Mais disons, l'idée, c'est de faire passer l'idée qu'il, quand même, il était un fonctionnaire efficace. Voilà, et puis le dernier aspect que je soulignerai ici, je laisse tomber la partie sur Zhehe, même si c'est intéressant, hein, il y a des choses très intéressantes, notamment d'un point de vue économique, mais je laisse tomber parce qu'on n'a pas le temps. Le dernier aspect, c'est donc les dernières années de carrière, et cette fois, donc à la fois haut fonctionnaire à la capitale et envoyé de l'empereur, conseiller proche de l'empereur, homme de main ou homme à tout faire, en quelque sorte, de l'empereur. Donc il est envoyé en Chine propre et hors des passes pour régler toutes sortes de questions, des enquêtes judiciaires, comme j'ai dit, des cas de corruption, des conflits au sein de l'administration, les rapports avec des tribus mongoles, des inspections de régions, des inspections de forces militaires, etc. etc. Donc il tourne pratiquement en permanence dans l'Empire, à un âge quand même relativement avancé, puisqu'il a 68, 69, 70, etc. Alors c'est un phénomène que moi, en tout cas, j'ai déjà rencontré, et d'autres aussi, évidemment. Moi, je l'ai rencontré sous Ziating, avec ces souverains qui s'appuient sur des envoyés, des personnes de confiance, véritables hommes de confiance, effectivement, pour essentiellement la collecte d'informations, résoudre des problèmes, mais aussi collecter des informations en contournant, il me semble, les canaux traditionnels de communication de la bureaucratie. Et évidemment, ça fait penser à Cao Yin, par exemple, et l'empereur Kangxi, qu'a étudié Jonathan Spence. Et je me demande, d'une certaine manière, s'il n'y a pas une continuité après avec divers de ces personnages comme ça pour les empereurs mandchous. Je ne sais pas ce qu'il en était sous les Ming, mais en tout cas sous les Qing, j'ai l'impression. Ouais, bah c'était les eunuques, probablement. Voilà, et puis donc, simplement pour terminer, c'est au cours d'une de ses missions, donc en 1734, qu'il meurt. Alors, pour rapidement conclure, j'aimerais insister sur deux points. D'abord, Sheng Yin, donc, il est né manchou. Il a été éduqué chinois. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a su mettre à profit ces deux dimensions dans sa vie de fonctionnaire. Dans son jeune âge, clairement, il ne met pas en avant son statut ou son identité manchou. Mais le moment venu, il fait preuve d'une aptitude remarquable à en faire usage, à s'en servir. Alors c'est difficile de dire, je ne veux pas dire qu'il a procédé de façon consciente ou volontaire, si vous voulez, ou voulue, mais en revanche, ce qui est clair, c'est qu'il a réussi, il me semble, à occuper un terrain, et alors là, bon, c'est une hypothèse, hein, d'une certaine manière, occuper un terrain, celui du fonctionnaire manchou, qui peut-être, plus d'un siècle et demi après la conquête, avait peut-être été en partie délaissé par ses pairs. Donc on peut se demander s'il n'a pas profité d'un vide là et s'il n'a pas été capable en fait de remplir là un vide. Si c'est seulement ses qualités personnelles ou s'il n'y avait pas aussi un besoin en quelque sorte auquel il a su répondre. Et puis l'autre aspect sur lequel j'aimerais insister, c'est évidemment le message qui sous-tend le texte. Shen Yin est un exemple à suivre, il nous est présenté comme un fonctionnaire modèle, mais pas seulement pour la carrière qu'il a faite. Pour les auteurs, pour ses fils, ce qui semble tout aussi important, c'est son approche de la vie, son approche du travail dans la fonction publique ou sa psychologie. Alors on met en avant sa patience, sa distanciation vis-à-vis des honneurs, vis-à-vis de toute de tous ces aspects, des apparences en quelque sorte qui étaient attachées à la fonction publique. Les autres très importants, c'est la parcimonie, l'assiduité, le zèle, la diligence, etc., etc. Donc toute une série d'aspects qui nous semblent construire une sorte d'éthique en quelque sorte centrée sur le travail, l'humilité et puis les rites, le rituel, et en d'autres termes c'est une approche qui est très chinoise pour un homme qui en est venu à personnifier la gouvernance mandchoue. Donc dans cette perspective, je pense que Shen Yin est un exemple intéressant de ce qu'on pourrait qualifier d'esprit sino-manchu qui s'est développé, je crois, vers la fin du XVIIIe siècle ou au début du XIXe siècle, à l'apogée en quelque sorte des Qing, et qu'on trouve, en tout cas, moi, que j'ai l'impression d'avoir vu assez prégnant à Pékin en particulier, et peut-être dans le nord de la Chine, ou alors c'est peut-être simplement un lien Pékin et Mandchourie, puisqu'on sait que Pékin, pour les Mandchous, c'était un lieu extrêmement, extrêmement important. Voilà, puis une dernière remarque, comme j'ai dit, il y a beaucoup plus de documentation que simplement cette biographie sur Shen Yin. J'ai trouvé, rien qu'au Gugong, à Taipei, j'ai trouvé environ 80 documents d'archives qui sont signés de sa main, donc il y a là de quoi faire. Il y a toute une autre série de fonds à fouiller, donc il y aurait de quoi faire. Et ce qui est plus intéressant encore, c'est qu'on a des informations biographiques relativement importantes pour 4 générations après lui, jusqu'à la révolution républicaine. Donc on peut suivre pratiquement un siècle d'une famille, en lignée directe, d'une famille mandchoue, et évidemment les informations biographiques qu'on a, c'est pour des personnages qui ont été fonctionnaires. Tous membres des bannières, mais tous fonctionnaires, et une rapide lecture, un rapide survol de ces documents m'a donné l'impression qu'en fait on avait affaire à des gens extrêmement actifs, extrêmement dynamiques, malgré les difficultés extrêmes, alors là, qu'ils allaient avoir à confronter, puisque on sait que la deuxième partie du XIXe siècle, c'est quand même une période assez difficile en Chine. Donc des gens extrêmement dynamiques, et je crois que de ce point de vue-là, et j'espère pouvoir dans le futur approfondir cette dimension, je crois que toute cette famille, sans dire qu'ils ont forcément appliqué cette éthique du travail, cette éthique particulière qui est mise en avant, il me semble, dans la biographie de Shen Yin, je crois qu'une étude de cette famille pourrait, ou de ses descendants, pourrait probablement permettre de brosser un tableau alternatif des Mandchous et de la gouvernance Mandchous au XIXe siècle, et peut-être même une image, ce qui me tient relativement à cœur, dépeindre une image un peu plus complexe, on va dire, de ce XIXe siècle chinois qui mériterait, je crois, d'être moins considéré comme le siècle du déclin. Enfin, c'est un siècle de déclin, mais c'est aussi un siècle où l'administration et l'État ont été, en tout cas par certaines de leurs dimensions, extrêmement actifs. Voilà, merci de votre attention.